Sedex, aventure, rencontre, conversation.
Dans la deuxième partie de cet épisode, enregistré avec Roxane, ma copine CPE, elle parlera du rôle de l'école, de la possibilité d'innover au sein de l'école et de la suite de sa carrière de fonctionnaire, entre autres. Partie 2, les aventures éducatives de Roxane.
Très humblement, je pense que là où j'ai fait avancer les choses, c'est au niveau interaction entre les élèves, climat scolaire, globalement. Mais juste, effectivement, on passe pas sur une insulte, on passe pas sur une bagarre, on passe pas sur l'homophobie, on passe pas sur le racisme, on se rencontre, on prévient les familles. Voilà, moi je pense que au niveau éducatif, c'est vraiment les choses sur lesquelles j'ai eu une incidence et j'ai travaillé en tout cas ces dernières années. Mais effectivement, certains de mes collègues mettent en place par exemple des voyages scolaires ou des sorties, chose que moi j'ai pas eu l'occasion de faire. Mais ça, c'est... Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui me disent « Ah, t'es CPE, trop cool, ça doit être génial, ça doit être un peu usant », parce que c'est terriblement usant, ça c'est quelque chose dont j'ai pas parlé. Et il y a d'autres personnes qui peuvent avoir cette espèce de rejet en se disant « Waouh, elle est CPE, donc elle est préposée aux heures de retenue, aux exclusions de cours, aux rapports, et en fait, elle ne gère que ça ». On gère que les soucis du quotidien, donc on peut être complètement monopolisé par tous ces trucs et en oublier des choses assez essentielles, de un. Et puis de deux, en oublier aussi les raisons pour lesquelles on a fait ce travail. Parce que fatalement, ce boulot est complètement chronophage, te prend tout entier et tu peux passer une journée de 8h à 18h à régler les petits soucis du quotidien, à recevoir des élèves dans ton bureau parce qu'ils ont été exclus, parce qu'il y a des rapports, parce que tu veux les gérer, parce que tu veux faire bien les choses. Mais n'empêche que t'es complètement estampillé discipline dans l'établissement. Et moi, dans l'établissement dans lequel je suis, et je pense notamment par rapport à mes chefs et par rapport aussi à certains professeurs, c'est très clairement ce que j'inspire. C'est « je suis madame discipline ». Donc, quand je passe de toute façon dans les couloirs, je le vois, hein, les gamins se taisent, et puis ils disent « il y a madame Forel ». Donc, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre, mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, et je crois qu'il est là, c'est qu'il y a plein de choses aussi qui se passent dans le bureau, qui se passent à l'extérieur, qui sont très très fortes, et qui permettent, je le crois, aux élèves d'avancer.
Est-ce que tu crois que l'école, en tant qu'institution républicaine, a encore son rôle à jouer dans la formation des citoyens ?
Oui, bien sûr. Et puis en plus, je pense que cette espèce de dichotomie entre éducation et instruction, elle est complètement inepte et elle date de Mathusalem. Il faut être complètement réac pour l'avoir encore aujourd'hui. Je veux dire... Les apprentissages ne se passent pas sans affect. Il faut arrêter d'être dans la démagogie. Enfin, c'est dans la démagogie, justement, dans l'autre sens. C'est pas possible de faire passer des connaissances et d'être au plus proche des élèves et de les aider, justement, à évoluer dans le bon sens, sans être à l'écoute, sans à côté faire référence à des savoir-être, à des savoir-vivre, à un vivre ensemble, alors qu'il y a un peu, c'est une notion un peu éculée, un peu galvaudée, j'entends bien, hein, je ne l'utilise pas à toutes les sauces, mais n'empêche que ça a un vrai sens. Et que si on ne passe pas ces éléments fondamentaux, de toute façon, les apprentissages ne se font pas. Donc je pense que ça, de toute façon, c'est, pour moi, c'est même pas une discussion qu'on devrait avoir. Donc quand on entend effectivement des personnes parler de l'éducation en disant que de toute façon ça devrait se passer assez froidement et qu'en fait l'école n'est pas là pour éduquer, je ne comprends même pas ce langage, parce que c'est pas vrai et ça n'a jamais eu lieu, à partir du moment où on est là justement pour la formation du citoyen. Et qu'on est dans une institution qui, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, prend en charge les élèves jusqu'à 16 ans obligatoires, et apparemment ça va peut-être encore aller plus loin, on prend bien sûr en charge énormément de choses. Et pour être un bon professeur, pour être un bon éducateur, pour moi c'est absolument évident qu'on ne fait pas l'impasse sur tout ce qui a trait aux affects. Et donc on prend un élève dans sa globalité. Et sa globalité, c'est des questions personnelles, c'est des questions familiales. Alors après, effectivement, on peut pas prendre tout en charge. Et de toute façon, on n'en a pas les moyens. Et c'est ça qui pose problème. Mais évidemment que pour moi, un professeur, par exemple, parce que j'entends souvent des professeurs dire « Ouais, je suis pas assistante sociale, je vais pas régler les choses dans la famille. » On ne nous demande pas ça. Et de toute façon, on n'a pas la prétention de dire qu'on va régler tout ça. Mais n'empêche que si tu veux que tel élève de 5e 6 réussisse en mathématiques et s'accroche en français parce que tu vois que ses notes baissent, tu dois absolument prendre l'élève dans sa globalité, lui demander ce qui se passe, rencontrer les familles, parce que peut-être qu'en ce moment, ses parents sont en train de se séparer ou il se passe quelque chose de très compliqué à la maison, et qu'en fait, si on n'entend pas tout ce qui se passe à côté, ça fait absolument écho au monde de l'école, et que l'un ne va pas sans l'autre.
On entend souvent dire que l'éducation nationale... peine à accepter l'innovation, l'innovation pédagogique, j'entends, par exemple, les écoles Freinet, Montessori, Steiner, ont pas trop leur place là-dedans. D'ailleurs, elles sont forcément un peu privées, ces écoles-là, donc réservées à des privilégiés. Est-ce que tu penses qu'il est toujours possible d'inventer pédagogiquement dans l'institution ?
Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je crois que ça rejoint justement les deux priorités que je donnais. La première, c'est plus de personnel, parce qu'en fait, je crois aussi qu'il y a beaucoup de professeurs qui veulent changer leur pratique, mais qu'en fait, avec 28 gamins en réseau d'éducation prioritaire dans un établissement, quand tu les vois 3 heures par semaine, ben c'est hyper compliqué. Donc, il y a les deux. Il y a aussi la formation. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi la formation qui est quand même hyper lacunaire. Alors, je ne les connais pas exactement, mais n'empêche que je me suis quand même un petit peu renseignée et j'ai même des collègues qui m'en ont parlé. Quand tu fais un bac plus 5, tu passes ton concours, etc., et qu'en fait, tu as eu une petite année de stage entrecoupée de cours et qu'on ne t'a jamais rien appris sur la psychologie de l'adolescent, on ne t'a jamais rien appris sur les pédagogies innovantes, sur l'éducation populaire. Donc c'est très compliqué aussi d'entrer là-dedans sans avoir eu ni les outils et sans avoir le temps.
Quand je dis est-ce qu'il est possible d'innover, est-ce que sous le contrôle de l'inspecteur d'académie, c'est acceptable, tu vois, c'est plutôt cette liberté-là que j'essaie de questionner.
Oui, complètement, parce que j'ai fait partie d'un stage syndical qui a duré 2 jours et qui était justement sur les innovations pédagogiques avec un syndicat où tu avais beaucoup d'exemples de collèges et de lycées qui sont innovants, où tu as des équipes de professeurs qui sont hyper motivées, donc qui décloisonnent aussi les apprentissages et les cours et qui bossent ensemble, qui font énormément de réunions, qui essayent de prendre en charge les élèves de manière différente. Donc oui, c'est possible. Mais encore une fois, je crois que ça a ses limites parce que l'éducation nationale ne donne pas assez de moyens aux équipes aussi pour s'en sortir. Donc il faut être hyper motivé, il faut avoir un petit peu la réunionnite. Je dis ça parce que j'ai une de mes copines qui est professeure en lycée, et c'est effectivement un lycée micro-lycée, donc ils prennent en charge des élèves qui étaient anciennement décrocheurs pour qu'ils aient leur bac. Et donc ils mettent en place énormément de choses qui sont complètement innovantes aujourd'hui. Et je crois qu'il y a beaucoup d'établissements qui essayent de mettre en place ça, mais il faut des équipes très très fortes sur le terrain. Il faut aussi que ce soit, bien sûr, piloté par un chef d'établissement qui y croit et qui a cette volonté. Je pense qu'à partir du moment où dans un établissement, tu as les forces vives en présence qui veulent bosser et rentrer dans ce genre de questionnement, oui, ça peut se mettre en place.
Ta vision du CPE quand tu étais petite, c'était quoi ?
Je n'en sais rien parce que j'ai aucun souvenir des CPE. Alors apparemment, il y avait une CPE dans le collège dans lequel j'étais, mais je ne sais plus trop à quoi elle ressemble et je ne l'ai jamais vue et je crois que je ne suis jamais allée dans son bureau. Et dans le lycée dans lequel j'étais, il y avait aussi une CPE ou un CPE, j'en sais rien du tout. Parce que j'ai aucun souvenir de ce travail en fait. Je l'ai vraiment découvert sur le tard. Après... Ça, c'est quelque chose que j'ai omis de dire, mais avant d'être CPE, j'ai été assistante d'éducation, donc surveillante dans un établissement pendant 3 ans, un établissement qui était très chaud à côté de Porte de Vanves, et qui l'était en fait beaucoup plus que dans l'établissement dans lequel je suis. Il y avait beaucoup de violence, on devait gérer beaucoup de soucis. Donc ça m'a aussi quand même familiarisée avec ce boulot et avec les élèves. Et autre chose qu'il est important de dire, c'est que j'ai eu mon BAFA à 16 ou 17 ans, je ne me souviens plus exactement quand est-ce qu'on l'a, mais c'était le sésame, hein, c'était le truc que je voulais faire déjà depuis que j'ai 15 ans. Donc à 17 ans, je me suis occupée de gamins dans des tranches d'âge assez basses, c'est-à-dire 3, 4 ans jusqu'à 6, 12 ans. Et à partir de 19 ans et demi, 20 ans, je me suis moi-même, j'ai moi-même été animatrice dans des colonies pour des adolescents. Donc à 20 ans, j'encadrais déjà des enfants et des adolescents en vacances qui avaient entre 15 et 17 ans. Donc le parcours était quand même sacrément facilité, et la connaissance de ce public aussi. Donc je suis arrivée à 24 ans dans un lycée, et je pense qu'en termes de posture et de positionnement, c'était une de mes craintes, une de mes grosses craintes, mais ça n'a jamais été un problème. Je crois avoir tout de suite trouvé la limite, la distance et le rapport vraiment sain avec des élèves qui n'étaient pas forcément beaucoup plus jeunes que moi. Donc au collège, ça s'est fait tout seul. Il y a quand même de la distance au collège, mais j'ai quand même l'impression d'être et c'est pas reluisant quand j'en parle comme ça, parce qu'il faudrait peut-être pas forcément autant d'études et puis passer un concours aussi difficile. Mais finalement, on est des coachs, quoi. Moi, je suis une coach dès le portail le matin. Alors, pas à tous les élèves, parce qu'ils sont 700, mais n'empêche que c'est des petits accueils individualisés. Est-ce que tu as fait ça? Où est-ce que tu en es? Ok, on se voit à 14h. Dis donc, j'ai eu tes parents au téléphone, il va se passer ça. Donc finalement, toutes mes expériences antérieures m'ont carrément facilité la tâche, je pense, parce qu'on n'est pas toujours, même si on est au sein de l'éducation nationale, dans un rapport hyper formel avec les élèves. Et je pense même que le nerf de la guerre et l'essentiel, c'est aussi de faire passer les choses assez simplement et avec humour. Je crois que j'ai le souvenir d'avoir beaucoup plus crié les premières années pour me faire entendre, parce que ça c'est un écueil pour le coup, parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui je crois que je fais beaucoup moins, crier. je fais passer beaucoup plus les choses sur le ton de la blague. Et finalement, ce boulot, c'est... mais au même titre que professeur et que plein d'autres boulots, mais c'est d'être dans le théâtre permanent, quoi. Moi, il y a des fois, j'y crois pas moi-même. Enfin, t'imagines bien qu'au bout de la 10e exclusion de cours dans la journée, j'ai pas la niaque et j'ai pas la patate pour montrer à l'élève que c'est hyper important ce qui s'est passé et qu'on va essayer de bosser le truc ensemble et on va essayer d'en parler. Donc, à un moment donné, tu te défais complètement de ce côté et puis tu rentres dans une scène de théâtre. Moi, il m'arrive en fin de journée, ils le savent, à 17h, s'ils me cueillent le jeudi soir ou le vendredi soir... Voilà, ça va être sur un mode un peu théâtral, un peu bouffon. On va essayer de désamorcer les situations. Et des fois, j'y crois pas moi-même. Donc on essaye de dépasser tout ça. Et ça passe aussi énormément par l'humour.
Quand on est fonctionnaire à 29 ans, on a sa carrière sécurisée, tracée, je dirais. Enfin, voilà. Toi, tu peux parler un peu des suites de ta carrière ?
J'ai demandé ma mutation cette année pour la Bretagne. Alors, je bénéficiais de 2 ans d'éloignement de conjoint avec mon copain. Donc, in extremis, j'ai réussi à intégrer l'académie. Donc là, on est en pleine phase de mutation intra. Donc, je n'en sais absolument pas plus. Là, il faut que je fasse mes demandes. Je sais que ça va être assez compliqué parce qu'il y a 4 postes sur l'Ille-et-Vilaine et que moi, j'aimerais absolument intégrer l'Ille-et-Vilaine. Il y en a 5 dans les Côtes d'Armor et il y en a 9 dans le Finistère. Donc, ben, à terme, je vais finir sur l'Académie de Rennes qui comprend toute la Bretagne, donc les 4 départements. Et en fonction de ce qui va se passer, ben, je vais prendre des dispositions en fonction de ce qui va se passer. Donc soit un appart à Langan ou à Saint-Quay-Pontrieux, ou soit je vais réussir à être TZR en Ille-et-Vilaine. Donc TZR, c'est titulaire en zone de remplacement. Enfin, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est des questions qui me taraudent aujourd'hui parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé précédemment, mais je crois savoir que je suis dans un établissement pas unique en son genre, mais qui a quand même énormément de caractéristiques qui sont assez positives quand tu es CPE, ou en tout cas en fonction de moi, ce que je mets comme sens derrière mon travail. C'est-à-dire qu'on est en banlieue parisienne, je suis en réseau d'éducation prioritaire. Et c'est un établissement qui bénéficie d'une mixité sociale et culturelle assez formidable. Apparemment, il y a 15 ans, c'était un établissement mal famé dans lequel aucune famille ne voulait mettre son enfant. Donc, ils faisaient jouer la carte scolaire, le détournement de la carte scolaire à fond. Pour le coup, depuis quelques années, justement, ça tend à se rétablir. Alors, il y a certaines, justement, politiques dues aux chefs d'établissement que je peux avoir et sûrement précédemment aussi qui ont joué dans la balance, du type classe bilingue, classe sport, des options particulières, etc. Alors moi, je ne suis pas fondamentalement pour, parce que je pense que c'est de la ségrégation, mais à l'intérieur de l'établissement, n'empêche que ça a redoré sacrément le blason de mon établissement. Et qu'aujourd'hui, il y a un nombre de parents, justement, que je peux avoir au téléphone qui me disent « Ben, il y a quelques années, il y a quelques temps, j'aurais pas mis mon enfant dans cet établissement, mais on va tenter le coup. » Et finalement, je crois savoir qu'ils ressortent de cette expérience assez conquis. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc tout ça pour dire que l'établissement dans lequel je suis, il y a les sections UPE2A, donc c'est des élèves primo-arrivants qui ne parlent pas français, donc une grosse section. Il y a les SECPA aussi, la section d'enseignement général et professionnel adapté, 700 élèves. Et donc, c'est un espèce de melting pot, mais formidable, de gamins dont les parents sont de plein de nationalités différentes en termes de religion, en termes de culture, en termes de langue parlée à la maison. C'est assez fou. Donc, le côté United Colors of Benetton qu'il y a dans mon établissement et qui est sacrément positif pour le coup, je sais pas Dans quelle mesure ? Et là, je m'y connais pas, donc peut-être que je fais des suppositions qui sont complètement erronées. Mais je ne sais pas dans quelle mesure je vais le retrouver. Et pour le coup, je l'ai énormément apprécié et je l'apprécie énormément. Ouais.
La Bretagne dans l'éducation nationale, pour finir, c'est un peu des postes très recherchés parce qu'il y a très peu, enfin beaucoup moins d'inégalités sociales qu'en région parisienne. Les collèges, lycées sont réputés comme plus calmes. On n'est pas à Marseille, on n'est pas à Lille, on n'est pas en région parisienne. Est-ce que ce ne sera pas un peu plan-plan ?
C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose complètement. Je me demande, parce que l'identité de mon travail, très clairement, elle est en fonction du type d'établissement dans lequel tu es. Et de tes chefs d'établissement, de tes collègues, mais vraiment en fonction des élèves qui arrivent dans l'établissement. Donc, ce qui m'emmerderait le plus, c'est d'être dans un établissement dans lequel, ben, ouais, il n'y a pas grand-chose à faire, même si, ben, en fait, ça veut dire que ça se passe bien. Donc, en fait, c'est un peu à double tranchant. C'est la nature de mon travail, en fait. J'aimerais bien qu'à terme, il n'existe pas, parce qu'on règle des soucis qui devraient d'ailleurs être des principes éducatifs de base qui seraient plutôt intégrés au boulot du prof. Mais n'empêche qu'effectivement, moi, dans mon quotidien, autant là, des fois, je suis happée par trop de trucs et c'est trop pour moi et je ressors de là complètement lessivée, autant j'ai pas non plus envie d'être dans un truc plan-plan. Mais n'empêche que ça me permettra de mettre en place des trucs dont j'ai pas eu l'occasion de mettre en place, c'est-à-dire que tout le versant justement éducatif, accès à la citoyenneté, travailler avec les délégués de classe, travailler dans la représentativité des élèves dans l'établissement, tout ce qui est conseil de la vie collégienne, ça c'est des pans qui ont été un petit peu éludés dans ma pratique qui se font, mais n'empêche j'y vais pas à fond parce que il y a plein d'autres choses à côté qu'il faut gérer. Donc je me mettrai au diapason et j'intégrerai un peu plus tout ça.
Thank you. Canzoni, morti nenni.